Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Tu n'es pas seul, viens faire un tour chez moi. Tu n'es pas seul, l'amitié c'est pour ça.
Alors, c'est un extrait du nouvel album de René Simard, Condor, le titre de la pièce « Tu n'es pas seul ». Bonjour René.
Bonjour Paul.
50 ans de carrière, c'est quand même pas banal. Puis je préparais l'entrevue, puis je disais « c'est vrai, il a fait ça, c'est vrai, il a fait ça, c'est vrai, il a fait ça ». T'as fait vraiment beaucoup de choses durant toutes ces années-là.
Oui, mais on dirait que je me rappelle pas.
C'est-à-dire?
Ben, je suis un gars de 13 ans. Je suis pas un gars qui mâche le passé. Là, j'ai été obligé avec ce projet-là de le faire parce que, mais je le fais aussi ce projet-là pour mes enfants. Je vais laisser quelque chose. Mes petits-enfants, je suis rendu aussi grand-père maintenant. Fait que, pour moi, ça a été une belle nostalgie de retourner. Puis revisiter certaines époques de ces différentes décennies-là.
Mais parlons de l'album, tu as décidé de faire des duos.
Oui.
Tu as choisi des gens. Mais l'idée de départ de l'album, c'était quoi?
L'idée de départ de l'album, c'était de traiter des sujets qui m'interpellent beaucoup et aussi de célébrer le 50e anniversaire de carrière. Mais en même temps, je voulais pas célébrer seul. C'est-tu plate célébrer tout seul, hein? T'es tout seul, puis youpi, ouais, tu sais, non. Moi, je suis un gars de gang. Moi, j'aime ça donner la place aux autres. Si on remarque sur l'album, j'ai fait mon pacing, c'est, tu sais, je veux dire, j'ai l'ordre des chansons et tout ça, c'est une question de courbe rythmique, c'est pas par importance ou n'importe quoi, sauf que la première, c'est sûr que c'est Condor. Mais la première personne qu'on entend sur l'album, c'est pas moi, c'est Bruno Pelletier. Fait que puis même Mario Pelchat, quand il est venu, avec Mario, c'est une chanson qui parle de l'urgence de vivre. Mario, il dit « Ah, tu me fais commencer? » J'ai dit « Oui. » Il dit « Oui. » Mais écoute, j'ai dit « Oui. » Parce que moi, c'est pas quelque chose qu'il fallait absolument parce que c'est mon album. Il faut que je commence chacune de ces chansons-là. Il y en a, où est-ce que je commence? Puis il y en a d'autres, que c'est d'autres. Il y a d'autres personnes qui... J'ai été chanceux parce qu'à chaque fois, moi, quand j'ai eu l'idée de faire des duos, je voulais, parce que j'ai fait beaucoup de covers dans ma vie, tu sais, de 70% là, des albums, oui, j'ai 30% de chansons originales. Mais cet album-là, peut-être que c'est mon dernier, ben, je voulais que ce soit des chansons originales, puis je voulais aussi explorer chacun des univers de ces interprètes-là qui ont accepté avec générosité, parce qu'on connaît en ce moment la situation du disque, c'est pas nécessairement facile, et ils sont venus avec tellement de bonheur. Moi, je les ai reçus un après l'autre. Le seul que j'ai poursu, c'est Corey Hart. Lui, il a fait ça.
À distance.
Des Bahamas. Mais écoute, on se parlait j'ai dit à Corey, j'ai dit, c'est drôle, t'es le seul que j'ai poursu en studio, puis je t'ai jamais senti absent. Ben, il dit, ah, je suis content parce qu'on se parlait à tous les deux jours. Et puis même Julie était là pour le coacher parce que il y a eu la délicatesse aussi de faire la chanson, chacun sa vie, en français. Puis à la fin, ce qu'il a fait, c'est qu'il a composé la fin de la chanson. On a un petit clin d'œil avec quelques phrases en anglais que Corey lui-même a composé. Aussi, j'ai eu des cadeaux tout au long de cette production-là parce que Marina Orsini, les gens disent « Ah, chante! » Ben, il faut se rappeler au Bye Bye, elle avait impressionné tout le monde en faisant Marjo. Puis Marina, elle me fait le cadeau de faire le texte, puis on parle de nos mères, parce qu'on a eu cette relation-là similaire avec chacune de nos mères.
Elle, qui plus jeune, portait ta coupe de cheveux, d'ailleurs.
Écoute, même Corey Hart! Puis il y en a un qui m'a fait rire, qui dit « J'ai jamais été capable de porter ta coupe de cheveux. » Puis je t'haïssais, c'est Locke Merville.
Bon, ça au moins c'est clair.
Ça, c'est clair.
Mais quand tu regardes ça, là, je me suis commencé jeune, c'est sûr. Puis on a vu des histoires d'enfants vedettes mal tournées. Mmh. Ce qui n'est pas ton cas, tu as quand même continué dans la carrière et tout ça. Est-ce que tu t'es dit, je vais toujours chanter, c'est ça que je veux faire dans la vie? Ou si tu t'es dit, ben, je veux toucher à autre chose, à la danse, à la comédie, au jeu?
C'est drôle parce que moi, j'ai toujours aimé chanter, c'est sûr, c'est mon premier métier. Mais j'avais cette curiosité-là de comprendre à fond ce métier-là. C'est comme la mise en scène. T'sais? Pour moi, avant, la scène, c'était quelque chose d'épeurant. Parce que j'ai fait de la mise en scène, j'ai décortiqué cette bébite-là. Et là, j'ai vraiment compris qu'une scène, c'est un être vivant. Chaque endroit que tu fais sur une scène a une signification, en tout cas pour un metteur en scène, pour celui qui vous parle. Mmh. Et pour moi, c'est important de comprendre la complexité d'une scène. Parce que si tu restes toujours vers l'arrière de la scène, on a dit dans le jargon du métier « upstage », tu touches moins le monde. Oui, si tu veux faire ça ou faire passer ça au niveau de l'émotion, c'est correct, mais quand tu fais « downstage », plus près des gens, ça, c'est aussi une autre façon d'aborder. Si tu vas à gauche, à droite, il y a toujours une signification pourquoi tu te déplaces sur scène. Puis, c'est la curiosité qui m'a amené là. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, on faisait des émissions de variété, mais j'allais toujours au montage. Pourquoi? Cherche-moi. Tu sais, j'avais ce goût-là de savoir pourquoi un montage pouvait être bénéfique. Mais il y a des montages qui peuvent complètement détruire une émission. Absolument. On pense que c'est bon, puis là, ben, c'est l'émotion ne passe plus, tu sais, parce qu'il y a trop de patentes. Puis non.
Tu disais tantôt qu'il y a eu des hauts, c'est sûr, puis des passes plus difficiles.
Ben, une carrière, c'est ça. C'est une carrière, c'est une montagne russe. Puis, tu sais, c'est la même chose. Parle à un Claude Dubois, parle à Gilbert... Ben, là, difficulté à parler à Gilbert Bécaud, il est plus accessible trop, mais parle à tous ces gens-là qui ont eu des carrières. Ou est-ce qu'un Charlebois, ils ont eu des moments où ils ont fait des chansons exceptionnelles. Puis après ça, ça se calme un petit peu. Mais ils continuent, ils reviennent, ils sont sur scène. Puis, mais il y a des moments qui sont productif dans une vie, dans une carrière.
Donne-moi un exemple de moments difficiles qui t'ont permis de prendre un virage dans ta carrière.
Peut-être l'âge. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, les gens disaient, ils chantent, l'oiseau, le ci, le ça. Après ça, mes bras ont commencé à allonger, le poil en dessous du nez a commencé à me pousser.
À dos moins beau.
Fait que là, ben, moi, je suis parti. Mais ce que j'aimais moins, puis ce qui me faisait de la peine, c'est ce que les gens disaient. Parce que j'ai toujours aussi aimé ça, entendre ce que les gens disent. T'sais, parce que c'est important de pouvoir te situer à l'intérieur de tout ça. T'sais, moi, tu peux pas rester toute ta vie sur un char allégorique puis faire des babayes à tout le monde quand tu sais qu'à quelque part, c'est pas nécessairement la réalité. T'sais. Ils ont l'air d'être contents de te voir, mais dans le fond, c'est pour ça que j'ai toujours gardé un regard froid du métier, mais je l'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai jamais dit mon public. J'ai toujours dit le public, parce que le public est toujours à reconquérir pour toutes sortes de raisons. Le surprendre, puis c'est ça le plus difficile. Si tout le monde avait la recette, Paul, moi, je garde tout le monde serait riche, mais c'est pas le cas, tu comprends? Puis je pense que la COVID a écopé tout le monde, tous les secteurs ont écopé.
Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment donné, tu es devenu comme indépendant de fortune, ce qui te permettait de choisir?
Ça, j'aime pas beaucoup parler de ça, mais je dois t'avouer que j'ai cette chance-là.
Okay.
J'ai vraiment cette chance-là. Pourquoi? Je vais te dire quelque chose. Monsieur McSween n'est pas là.
Non.
Mais moi, écoute, j'essayais de faire mes devoirs depuis que je suis tout petit. J'ai jamais tenu pour acquis que ce que j'ai là, waouh, ça va toujours marcher comme ça. J'étais comme un écureuil. Femme et moi, on est pareil. On fait attention. Puis aujourd'hui, c'est peut-être ça qui nous permet de prendre des décisions. Puis d'essayer. C'est jamais des décisions où est-ce que le feu est pogné, là. Tu sais, faut sauver les meubles. Non. Je vous le dis humblement, ma maison, on est dans la même maison. C'est pas un château. On l'a depuis 88. Oui, est payé, j'espère. Puis, tu sais, je veux dire, on n'a pas 40 bateaux sur le lac Champlain puis des skidou. Non, on fait encore attention. Pourquoi? Parce qu'on aime cette simple liberté-là.
La capacité de choisir, puis de dire oui, puis de dire
ça,
non.
C'est le luxe ultime. Puis je dis pas que, tu sais, je suis pas milliardaire. Là.
Non, mais d'être capable de dire oui ou non, c'est fantastique.
Ouais. Ben écoute, c'est un cadeau aussi. C'est un cadeau de la vie. Tu sais, j'essaie de me visualiser autrement, puis je suis pas capable. J'ai comme... Moi, je viens d'une famille. Ma mère a eu 9 enfants, tu sais. Elle a perdu de la naissance. 7 enfants. Mon père a trimé dur. Ma mère aussi. Ma mère, c'est la personne la plus résiliente. C'est là que j'ai compris ce mot-là, parce que ma mère, c'était un exemple. C'était la personne forte dans ma vie. Et je pense que tout ça a fait en sorte que... Ah, c'est vrai qu'il n'y a rien qui est donné dans la vie. il faut travailler.
Tu as croisé beaucoup de monde, évidemment, dans la carrière, puis des légendes, là, Bing Crosby, là, je voyais une photo, puis il y en a plein. Là.
Oui.
Gardes-tu des souvenirs de ces moments-là, même si tu étais jeune?
Ah oui, vraiment. Oui. Parce que pour moi, c'était la marche à suivre. Ces grands-là, puis la phrase plate qu'on entend tout le temps, les plus grands sont les plus simples, j'y crois. J'y crois parce que moi, je vois encore un Bing Crosby rentrer en meeting de production avec un chandail vieux rose puis un trou dans au coude. Puis, hello, young man. Tu sais, là, j'avais White Christmas d'en face. Là, tu sais, pour moi, déjà là, non, je réalisais. Et puis, de l'autre côté de la table, c'était Bob Hope. Tu sais,
ouais.
Avec, tu sais, j'ai vécu des moments extraordinaires.
As-tu pensé développer une carrière à l'international?
Ah ben oui, j'ai eu des essais aussi aux États-Unis, tu sais. Les États-Unis, puis Renan Gélil l'a dit aussi dans son livre, quand il a fait un livre à un moment donné, puis il a dit que j'étais comme un cobaye. Donc, il a fait...
Testait ses recettes.
Il testait ses erreurs. Puis encore là, humblement, parce que je vous dis, pour moi, c'est pas un déshonneur. C'est ça qui l'a aidé peut-être à mieux planifier la carrière de Céline. Pauvre Céline, hein, tu sais, ça va pas bien.
Non.
Mais tu sais, c'est extraordinaire. Il y a personne qui va atteindre un niveau aussi élevé.
Mais as-tu des regrets de pas avoir eu cette carrière-là?
Je vais te dire d'autres choses. Si j'ai pas eu cette carrière-là, à l'international, ben peut-être que si je l'avais eu, j'aurais pas pu faire de la mise en scène. Moi, ma grande réussite, Paul, là, c'est oui, ma vie professionnelle, mais c'est surtout ma vie personnelle. Puis d'avoir un équilibre entre les deux, pour moi, là, c'est hyper important parce qu'on vit quand même dans un métier d'excès. Juste se ramener puis se dire, OK, c'est quoi l'essentiel finalement? Qui c'est qui va rester là autour de ton lit quand tu vas partir? Là? Parce qu'on est... On travaille, on vit des émotions, après ça, on finit. Comment je vais finir, je ne le sais pas. Mais c'est la grande question que je me pose à 60 ans, parce qu'il m'en reste moins à vivre que ce que j'ai vécu, on s'entend. J'espère juste que la santé va être au rendez-vous pour que je puisse profiter du moment présent puis futur. Moi, je suis un gars de présent, un gars du futur.
Mais est-ce que tu veux être actif jusqu'à la dernière minute où physiquement tu vas être capable de le faire?
J'espère juste que si je deviens comme, dans le sens... si je deviens un spectacle pathétique, j'espère que quelqu'un va être assez honnête pour me dire, garde mon grand, là, ce serait peut-être le temps que tu prennes ta retraite. Mais pour moi, le mot retraite n'existe pas. T'sais? Je vais continuer à travailler puis essayer d'explorer de nouvelles avenues. Puis c'est ça, un artiste. Tu sais, quand on parlait, là, pendant la COVID, là, tout le monde disait, oh mon Dieu, ben, les artistes, il faut qu'ils se réinventent. Ben, je m'excuse, là. Un artiste, là, même avant COVID, il fallait qu'il se réinvente aussi, hein. On n'a rien inventé. Ou c'est sûr que c'est une autre façon de travailler. Mais un artiste qui se respecte, il faut qu'il se réinvente tout le temps. Moi, mon université, moi, j'ai fait ma secondaire 5. Mon université, ça a été d'apprendre l'anglais, d'apprendre la danse, d'apprendre des cours d'acting, d'explorer ce monde-là, de prendre des cours de langue espagnole, de prendre des cours de langue de signe. T'sais? Puis c'est, pour moi, c'est ça, mon université. Puis comme Denise Filiatro, souvent on en parle, ben elle dit, regarde, nous autres, là, on a appris sur le tas. Hein. Mais tu sais, j'ai ces exemples-là à 90 ans. J'étais avec Dominique Michel il y a 3 semaines. Elle a participé à un documentaire, en tout cas, que TVA fait sur moi en ce moment. Dominique, là, 89 ans, elle s'assoyait sur les marches, elle mettait ses bottes, puis tout ça, elle se levait droite comme une barre. Elle est là, elle est toute là. Moi, c'est comme ça que je veux vieillir. Ça, c'est inspirant. Tu sais, c'est pas de dire, bon, oui, je trouve ça difficile d'avoir 60 ans parce que j'aime trop la vie. Mais 60 ans en tant que tel, c'est correct. C'est juste que il faut juste que j'arrête de le dire parce que j'ai cette chance-là. Sauf que je peux pas jouer à l'autruche. T'sais? J'ai plus 20 ans. T'sais?
Parle-moi des enfants. Tu viens de le dire, c'est le cœur de ta vie, puis c'est l'espèce de refuge. La femme des enfants. Ouais. Quand vous avez découvert la surdité des enfants et les problèmes, la première réaction, c'est quoi? La première, toute première, là, quand tu t'en aperçois, tu le constates.
Oui, ben moi, j'ai commencé à m'en apercevoir avant Marie, tu sais, parce que on a toujours été bien positifs. Notre rêve, c'était de les envoyer dans un collège français, puis tout ça, puis qu'il y ait un français impeccable, puis c'était bien important pour nous autres. Mais là, quand je voyais que je pouvais pas le mettre en confiance quand il pleurait dans sa bassinette, Olivier, parce que c'était notre premier, là, je commençais à me coucher parce que là, tu sais, j'essayais, bien sûr, je le prenais dans mes bras, puis bon, on le réconfortait. Puis là, je revenais me coucher, je dis, coudonc, il serait chaud. J'ai commencé vraiment, puis là, je t'avoue que j'avais des sueurs froides, parce que je me dis, comment on gère ça, la surdité? Ce qui est le plus difficile, c'est d'être face à l'inconnu. Quand on l'a su, je venais de finir d'animer Opération Enfant Soleil, Olivier avait 11 mois. On est allé à Sainte-Justine pour se faire confirmer ça. Puis Marie disait tout le temps, ben voyons, tu t'en fais trop, t'es papa poule, puis tout ça. Puis je la comprends, Marie, aussi, tu sais, parce que c'était gros, là. Tu sais, quand ton enfant est atteint de surdité, tu dis, bon, tu sais, comment je vais faire pour lui dire que je l'aime? Comment je vais... Ben là, j'ai appris. Même si je vis dans un métier de communication, ben, qu'il y a d'autres façons de communiquer. Mm-hmm. Puis après ça, ben, sais-tu quoi? Quand on l'a su à Sainte-Justine, on est tout de suite allé voir mes beaux-parents. Je m'en rappellerai tout le temps à Duvernay. Puis là, on s'est installé dans balançoire en arrière. Marie était là, ses parents étaient là. Puis M. Taillefer a dit, garde, c'est mon premier petit enfant. Puis il dit, vous allez voir, il va nous impressionner. Déjà là, d'emblée. Puis on est parti avec cette phrase-là. Puis je t'avoue que ça a pris 3 jours pour nous consoler, là. Et puis après ça, on s'est dit, il faut l'accepter, puis il faut prendre position. Il faut, parce que si tu l'acceptes pas, ben, tu vas handicaper tes enfants davantage. Et puis, on l'a accepté. On leur a donné des outils, Paul. On était en thérapie jeune. Puis, Rosalie, on l'a su à un jour de vie avec une machine qui s'appelle Algo plus 1 à Cité de la Santé. Puis là, c'était plus facile parce qu'on n'était plus face à l'inconnu. On avait déjà fait des démarches. On a commencé par aller à Montreal Oval School. Puis parce qu'il n'y avait pas de service en français. On est allé à Raymond Devoir aussi. Et ensuite, on s'est vraiment impliqué avec la fondation de l'implant cochléaire parce que c'est grâce à l'implant que nos enfants sont autonomes maintenant. T'sais, ils payent l'impôt comme toi et moi. Et c'est ma grande fierté parce que dans le temps, dans les années 20, 30, on les internait parce qu'on se disait... peuvent rien faire.
Ils
ne
pourront
société.
Pas contribuer, c'est non, ça, à la société.
C'est ça, exactement. Puis ça, pour moi, on peut parler de 50 ans de carrière, mais ma plus grande victoire, c'est de regarder évoluer. C'est de voir les liens s'essayer. Puis je crois que c'est la surdité qui a fait ça. Ça crée comme une complicité hors du commun.
Entre les deux?
Oui, entre les deux. Et
La famille.
Avec la famille. Écoute, Olivier et Rosalie s'entendent comme... Puis ça, c'est un beau cadeau pour les parents. Quand tu vois nos deux enfants s'embrasser quand ils se voient à chaque fois, puis à échanger, à rire ensemble, moi, ça, là, ça, c'est ma récompense. C'est pas d'autre chose que ça. On a un beau métier, c'est beau le show business, mais il n'y a pas juste ça. Il y a ce qui suit, qui t'attend à la maison.
Mais cette sagesse-là, j'allais dire, t'as pris ça où? Je comprends là, que, tu sais, mais je disais au début, des enfants vedettes qui tournent mal, là, la liste est assez longue, là, puis on a vu ça aux États-Unis. C'est-à-dire la sagesse de ne pas mettre tes œufs tous dans le même panier puis de te prévoir comme ça des îlots de tranquillité, en fait, un îlot avec ta famille. C'est l'instinct? Quelqu'un t'en a parlé? Ouais.
J'ai fait de mauvaises rencontres, mais j'ai fait plus de belles rencontres. Claudine Bachand, la famille Bachand, Daniel Bachand, leur mère, Marie-Ange Lachambre, à chaque fois que je m'en venais à Montréal, je restais chez elle. Suite à ça, fait 41 ans que je suis avec Marie, mes beaux-parents, mes frères et sœurs aussi. Tu comprends? Puis moi, c'est mon noyau. C'est là où est-ce que j'ai essayé de comprendre ce qui arrive à un enfant de 9 ans, ce qui arrive aussi à chaque étape. J'ai été un enfant, j'ai été un ado, je suis devenu un jeune homme, un père, un mari, un grand-père maintenant. Et toutes ces étapes-là, pour moi, sont enrichissantes. Il faut juste savoir les savourer, puis les décortiquer et les décoder.
Les décoder?
Oui.
Ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire que, qu'importe ce qui t'arrive, Paul, la pire tuile, faut pas que tu apprennes au premier degré. Faut pas que tu joues à la victimisation. Il faut que tu comprennes qu'il y a des plans B. Et aller chercher les plans B, souvent, c'est ce qui est le plus difficile. Et pour moi, j'ai toujours opté pour les plans B. Le plan A est toujours accessible, il est toujours là. Il est toujours, tu sais, ah, pourquoi moi? Pourquoi rien? Tu vas pas loin de même. L'important aussi, c'est de comprendre qu'il faut laisser certaines choses derrière. J'ai toujours dit que ma mère, avant l'ordi, avait découvert le mot « delete » avant que ça existe. Fait qu'elle a fait le ménage, elle, puis elle l'a eu solide. T'sais. Son père était particulièrement bizarre, que je n'ai pas connu. Et ma mère m'a fait des confidences là-dessus aussi. Et c'est tout ça, je pense, ces belles rencontres-là.
Puis comme dans le fond, ce que tu dis, c'est peu importe ce qui nous arrive dans la vie.
Oui.
Le négatif, on le tasse,
oui.
Puis on passe à l'étape suivante, puis qu'est-ce qu'on fait pour se sortir de ça, mettons?
Oui, oui, exactement. C'est aussi simple que ça, parce que je me suis rendu compte avec le temps qu'on est notre pire obstacle. T'sais, essayons de comprendre, essayons juste de décoder. C'est ça que je veux dire par décoder. Ça m'arrive et comment je dois gérer ça? Et pensez pas au moment présent, il faut penser à moyen et à long terme. En bout de ligne, qu'est-ce que ça va donner? Essayez de se voir, de se visualiser. Et c'est ce que j'ai compris avec le temps.
René, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Paul, ça a été vraiment un immense plaisir. Merci de m'avoir reçu.
Condor, puis il y aura, je pense, c'est 5 décembre, TVA, sauf erreur autour de ça.
Exactement.
C'est quoi, une année de festivité, finalement?
Ah, écoute, je suis chanceux. Merci. Merci à la
René.
Providence. Merci, Paul.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
La nouvelle est tombée hier en fin de journée. Ça a été un choc pour bien des gens. Carey Price, sur les réseaux sociaux, qui a partagé ce qu'il vit depuis des années. Et je vais le citer. « Au cours des dernières années, je me suis laissé sombrer dans un état de noirceur dont il m'est devenu impossible de sortir sans aide. Le mois dernier, j'ai pris la décision d'intégrer un centre de traitement pour usage de substances. » Les choses avaient atteint un point où j'ai réalisé que j'avais priorisé, ou que je devais, pardon, prioriser ma santé, tant pour moi-même que pour ma famille. Autrement dit, ce que Carey Price dit sur la place publique, c'est que depuis des années, j'ai des problèmes de consommation, puis tout ça m'amène dans un tourbillon avec, par voie de conséquence, des problèmes de santé mentale. Stéphane Waite est avec nous, il a été son entraîneur, il collabore au 98.5. Stéphane Waite, bonjour.
Bon matin.
Avez-vous été surpris de cette annonce-là hier en fin de journée?
Très surpris, honnêtement. Très, très surpris. C'est quelque chose que je n'ai pas vu venir. On s'était texté il y a un mois à peu près quand Carey a décidé de demander de l'aide. Et puis, ça a des textes qui étaient assez courts, mais pour... tout ce qu'il disait, en fin de compte, c'est que, bon, mais mentalement, c'était pas facile. Et puis, il avait demandé de l'aide. Donc, pour moi, c'était clair que c'était seulement au niveau de la santé mentale. Parce qu'en 8 ans avec lui, je me suis jamais rendu compte de quelque chose, soit alcool, drogue ou médicaments. Je me suis jamais rendu compte. Et j'étais certain que c'était pas un problème.
Ben, c'est un peu la question que j'allais vous poser, dans la mesure où vous le voyez à l'époque comme entraîneur, vous faites des séances avec lui, vous avez un contact privilégié avec lui. Il n'y a pas des matins où il arrivait pour l'entraînement, je sais pas moi, comme on dit, hangover, ou qui était un peu moins sur la coche que d'habitude?
Non, c'est exactement ça qui me surprend tellement. Chaque matin, il arrivait, puis très focusé sur le job, très focusé dans son effort, que ce soit tant hors glace que sur glace. C'est un gars qui prenait soin de lui, qui prenait soin de ce qu'il mangeait. C'est pour ça que pour moi, là, c'est une surprise totale. Et puis, tellement que même ses coéquipiers les plus proches de lui n'ont jamais rien vu. Donc, c'est très, très surprenant.
Et tout ça, là, cette dépendance donc reconnue, s'ajoute des problèmes, vous l'avez un peu souligné tantôt, de dépression, en tout cas des idées noires. Puis croyez-vous aussi le fait qu'il ait été blessé souvent quand même, puis qu'il y a eu des interventions, qu'il a pu peut-être développer une dépendance à certains médicaments comme des antidouleurs, ou on jase là?
Peut-être, honnêtement, on spécule, mais encore là, c'est quelque chose que pour moi que j'ai jamais vu venir. Et puis c'est assez spécial. C'est sûr que je le fréquentais seulement à l'aréna, moi, du matin jusqu'au milieu de l'après-midi ou le soir quand on jouait. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que ses coéquipiers les plus proches qui le fréquentaient, lui et sa famille, là, les soirs où il allait souper chez des coéquipiers ou qu'ils sortaient souper ensemble sur la route, même eux n'ont jamais vu venir cette chose. Donc c'est là que tu vois que souvent, il y a beaucoup de personnes qui souffrent en privé, puis qui gardent ça pour eux, puis personne ne le sait dans leurs entourages. Ce qui est très surprenant, puis qui est très... c'est un petit peu un choc.
Je comprends, c'est révélateur aussi. Là, on parle de Carey Price parce que bon, c'est une vedette, c'est une star, mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin qui vivent ça, puis l'entourage le sait pas, puis l'entourage le constate pas. Avez-vous l'impression que toute cette démarche-là, le fait de, d'abord, un, de s'inscrire au programme, de le dire publiquement, de prendre ce recul par rapport à sa carrière, tout ça va l'aider à poursuivre sa carrière ou ça va l'amener peut-être à dire... Je vais aller faire autre chose.
Je pense qu'au contraire, ça va l'aider à poursuivre sa carrière, puis peut-être plus même apprécier sa carrière. C'est un gars souvent qui arrivait le matin d'humeur changeante. Et puis j'avais souvent eu dire, écoute, Carey, have fun, la vie est belle, tu joues au hockey, t'es bien payé pour, t'as une belle famille. Puis c'est là que des fois, il réalisait, il disait, ouais, c'est vrai, t'as raison, Steph. Puis là, il commençait à sourire. Mais peut-être que tout ça va faire que ça, il va le réaliser pour de bon, puis qu'il va enfin apprécier tout ce qu'il y a alentour de lui, parce que c'est un gars qui est privilégié. Puis tout ça fait que, écoute, ça va aider pas seulement à Carey, ça va aider tout le monde, je pense, tout le monde qui ont des problèmes. Fait que tout ça pour dire que le fait qu'il ait demandé de l'aide, puis après ça, un mois plus tard, qu'il dise publiquement c'est quoi son problème, fait que, wow, j'ai encore beaucoup plus de respect pour l'homme, si je pouvais en avoir encore plus.
Stéphane Waite, merci beaucoup. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Stéphane Waite est l'ancien entraîneur des gardiens du Canadien. Il était là jusqu'en mars dernier et donc a travaillé avec Carey Price.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
11 novembre, jour du souvenir, et comme je le mentionnais, les mots qui nous viennent en tête, la reconnaissance et le respect pour ces hommes et ces femmes qui ont servi. Je vais en parler ce matin avec Bruno Plourde, lieutenant-colonel à la retraite, ancien commandant du régime des Black Watch, et depuis 2017, il est directeur des services aux vétérans pour l'organisation qui s'appelle Le Sentier. Monsieur Plourde, bonjour.
Bonjour, monsieur Arcand.
Je m'adresse à vous, puis je m'adresse à tous les anciens combattants, pour exprimer cette reconnaissance et le respect que les citoyens ont pour ce que vous avez fait, dans des conditions toujours pas faciles, j'imagine. Ma première question ce matin, c'est qu'est-ce qui vous a amené, vous, à faire votre service militaire?
Je dirais le travail en équipe, se dépasser. Travailler avec des gens puis accomplir des choses hors de l'ordinaire, je vous dirais. Beaucoup... comment je peux changer les choses? Oui, on a toujours l'image du soldat guerrier. Au Canada, on a aussi une tradition de soldats bâtisseurs. Au-delà du maintien de la paix, on a toujours eu en marge de nos missions un goût des projets de développement des communautés où, dans la mesure que ça pouvait être fait dans les théâtres d'opération. Fait que je voyais ça même au tout début, dans les années 80. Puis ça m'a attiré. Fait que l'équipe, la famille régimentaire, se tenir ensemble, c'est la chose qui m'a attiré le plus.
Je regarde, là, vous avez fait 4 missions, là, vous me corrigerez, vous êtes allé en Bosnie, vous êtes allé en Afghanistan, au Congo à 2 reprises, je pense. Oui. C'est des théâtres d'opération différents, j'imagine, c'est pas des missions identiques, là.
Sont complètement différentes chacune l'une de l'autre, autant dans le temps que l'organisme qui dirigeait, où il était l'égide. La Bosnie était, quand j'y ai été, avec l'OTAN. On était en reconstruction, à redonner des propriétés, des minés, s'assurer que le traité de Dayton était mis en application. Au Congo, c'est de rebâtir ou au minimum arrêter la désagrégation d'un pays qui avait déjà beaucoup de défis. Puis l'Afghanistan, plus récent, au-delà des combats, il y avait en arrière une mission de développement puis d'aider les Afghans à trouver leur solution à la construction de leur pays. Dans mon cas, je faisais du mentorat auprès de la police nationale afghane.
Est-ce qu'il y a parfois un sentiment, j'allais dire, d'impuissance pour un militaire canadien quand on se retrouve... J'ai déjà parlé à des gens qui ont fait le service qui me disaient on est témoin d'un certain nombre de choses, mais on ne peut pas intervenir, ou on voit des situations, mais on est là, mais on a quand même un mandat qui est clairement défini.
Il va toujours avoir une déception. On veut toujours, comme personne, aider l'autre. Le militaire ne fait pas de différence. Que ce soit dans n'importe quelle mission, il va avoir un sentiment d'impuissance définitivement. La façon que moi, j'ai trouvé, je ne parle pas pour mes collègues puis mes frères et sœurs d'armes, c'est-à-dire, ben, si je change la vie d'une personne, d'une famille, pendant ma durée-là, ben, c'est une graine qui a été semée, c'est un espoir qui a été donné pour continuer. Même si tu ne peux pas changer complètement l'ordre géopolitique des choses.
Vous dirigez là, les services aux vétérans pour le Sentier. D'abord, parlez-moi de l'organisme. Qu'est-ce que c'est au juste? Qu'est-ce que vous offrez?
Le Sentier est un organisme qui a été créé au début des années 2019. Notre objectif, c'est de voir où étaient les trous dans la bureaucratie puis dans le soutien aux vétérans. Beaucoup de services gouvernementaux vont être en silo.
Pas très surpris, mais continue.
En fait, ça s'applique pour tout, pas juste aux vétérans.
Non.
Notre objectif, ben, c'est au lieu d'avoir des... Nos tuyaux sont généralement verticaux. Je travaille à l'horizontale. Mon objectif, c'est d'aider le vétéran, de l'accompagner à passer à travers ces différents silos-là, puis de l'accompagner pour mieux comprendre les services qui lui sont offerts, comment l'aider à passer à travers la transition de la vie civile à la vie militaire. C'est principalement nos efforts. Puis on a des collaborateurs qui font ça avec nous autres.
Vous dites, quand l'État décide d'envoyer des militaires dans des missions, puis qu'on sait que ces hommes et ces femmes vont être confrontés à des horreurs, puis à des moments atroces, il faut s'attendre que quand ils reviennent de là, ils ont, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, des séquelles importantes.
Tout à fait. Je cherchais un mot quand je venais vous parler. J'ai absolument le devoir de cohérence.
Ouais.
On le fait avec nos enfants, on le fait avec tout le monde. Ben, si on demande à des gens, pas juste les militaires, les premiers répondants, policiers, pompiers, hommes, femmes, qu'on envoie dans une zone hors de l'ordinaire, on devrait prendre 30 secondes puis s'assurer que quand le travail va être fait, qu'on soit pas une deuxième ou une troisième priorité. Il y en a beaucoup de priorité 1, mais le type d'engagement que les premiers répondants et les militaires prennent, je pense que ça mérite...
Est-ce que ça s'est amélioré depuis que vous en occupez?
Ça s'est amélioré pour le vivre en étant vétéran. Ouais. Je pense aussi à travers le système. Sûr. Ça s'est amélioré, mais souvent, comme encore là, c'est un thème redondant, le processus est plus important que le résultat. Si le formulaire n'est pas rempli exactement comme il faut... On amène des défis. Il n'y a pas de mécanisme de transition entre la vie militaire et la vie civile dans la structure.
OK. Là, je ne sais pas s'il y a des études qui existent, mais c'est quoi le pourcentage, d'après vous, de militaires qui ont de la difficulté, justement, à faire cette transition vers la vie civile et d'un retour après ce genre de mission?
Il y a certaines études qui disent que c'est jusqu'à 60 % des vétérans. Ça peut partir de trouver un médecin de famille, un thème que vous venez d'aborder. Ça peut prendre jusqu'à 4 ans avant d'avoir un médecin, mais Anciens combattants Canada, pour donner des services aux vétérans, demande une rencontre avec un médecin. Les médecins militaires, ben, une fois que tu es sorti, ben, tu n'es plus sur la liste, là. Fait que le gros défi, c'est ça. L'accessibilité est là, la volonté sur le terrain des équipes, au sein d'Anciens combattants Canada, des autres organismes, est là. Mais c'est quand l'ancien combattant qui avait une routine d'émettre un chèque à un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, maintenant, on a des défis de complexité de cas. Il y a beaucoup plus de choses qui arrivent. La santé mentale est un exemple flagrant. Ben, comme toute machine, elle ne s'est pas adaptée à la clientèle qu'elle devait desservir. Puis maintenant, on vit une décentralisation. Qui dit décentralisation, dit se perdre dans la masse. Puis les services sont paradoxalement plus disponibles parce qu'en ligne, parce que les gens de terrain veulent le faire. Mais le processus pour obtenir ce service-là et plus long.
Monsieur Plourde, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps.
Fait plaisir. Bruno Plourde, lieutenant-colonel à la retraite, ancien commandant du régiment des Black Watch et depuis 2017, directeur des services aux vétérans pour Le Sentier.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici,
très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine. Alors, reconnaissez Annick Jean, c'est un extrait de l'album Love in Silence. Elle est avec nous ce matin, bonjour.
Bonjour, Paul.
Tu l'as expliqué, évidemment, c'est un album écrit, centré sur ton père qui est mort subitement. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est pas un album triste, pas un album déprimant, bien au contraire. Puis c'est, j'imagine que c'est difficile de traduire tes émotions, tes sentiments comme ça, parce que là, c'est quelque chose qui te touche directement. T'étais là quand il est décédé, mm-hmm. puis il est mort dans tes bras.
Ouais. Tu sais, cet album-là, c'est écrit en, peut-être quelques mois après sa mort. Puis c'est la façon que j'ai décidé de faire mon deuil. Puis j'ai juste commencé à écrire. Puis je savais pas trop qu'est-ce que je faisais. Puis mon mari Patrick m'a dit, je pense que t'es en train d'écrire un album, mais tu t'en rends pas compte. Tu sais. Puis ça sortait. Là, puis les paroles, autant que la musique, tout sortait. Puis je m'inspirais. En fait, quand mon père est décédé, j'ai écouté beaucoup de vinyles. Puis peut-être c'est pour ça que j'ai sorti un vinyle, mais j'ai écouté beaucoup de Leonard Cohen, Johnny Cash, tout ce que lui écoutait, tu sais, Cat Stevens. Puis je me suis comme imprégnée de ça, puis je sais pas, ça, écoute, la Live or Die, celle qu'on vient juste d'entendre, c'est pas mon son habituel, tu sais, je veux dire, c'est un peu country, je me suis surpris à faire ce genre-là pour cette chanson-là, mais c'est ça, tu sais, c'est un album qui est tellement pas calculé, c'est un album que j'ai fait avec mes tripes à la table, puis ma tristesse, mais oui, t'as raison, il est lumineux quand même. Quand tu l'écoutes, il est apaisant. Tu sais, c'est un album qui fait du bien, je pense. Moi, il me fait du bien, en tout cas, quand je l'écoute. Puis je suis capable de l'écouter aussi comme si c'était pas mon album. Ce que je fais rarement, d'écouter mes propres chansons.
Mais on est au lendemain du gala de la disque. Et ouais. L'industrie a beaucoup changé au fil des années. Là. Je te disais, micro fermé, là, ça prend du guts là, pour sortir un album. Avant, là, il y avait les parcours, les radios, il y avait deux, trois émissions de télé, il y avait... Et ça partait.
Ouais.
Là, on est dans un autre univers. Là. Toi, tu fais tout, là.
Ouais, ben moi, je fais tout. J'étais un petit peu...
Un petit peu quoi?
Ben, j'étais un petit peu intense, là, tu sais. Je veux dire, à chaque fois que je passe sur un projet comme ça, puis l'autre affaire, c'est que j'ai pas de patience. Fait que je suis pas capable d'attendre après des subventions, tu sais, c'est éternel. Et cet album-là, je l'ai produit, je l'ai financé moi-même. J'ai pas pensé, j'ai juste comme... plonger. Oui, faut avoir du guts, faut avoir de la drive, puis faut vraiment croire en ce qu'on fait, parce que comme tu dis, tu sais, je peux pas me fier, mettons, sur les radios pour me jouer, je suis en anglais en plus, puis c'est difficile les radios en ce moment de tourner, puis je pense que les artistes, on est tous à la même place, on se dit, hey, on a tellement besoin de vous autres, tu sais, parce que dans le temps, je peux dire ça, dans le temps, on sortait un extrait, puis toutes les radios nous jouaient, puis tu sais, ça nous aidait à se faire connaître à travers le Québec aussi, puis tu sais, d'aller en tournée, puis tout ça. Maintenant, faut se réinventer, tu sais, faut utiliser les réseaux sociaux, faut parler à nos fans. Moi, je parle beaucoup à mon public, je réponds à tout le monde, puis tu sais, on se crée une communauté. Écoute, ça va vraiment bien avec cet album-là. J'ai une super belle réponse. Les gens achètent mon album. J'ai ma propre boutique sur mon site internet, annickjean.ca, et je vends sur mon album, je vends sur mon site internet. Je vais vendre en tournée aussi. Je pars en tournée avec ça. Je m'attendais pas à ça non plus, mais je pars en tournée. J'ai une trentaine de dates qui se bookent à travers le Québec. J'ai super hâte. Mais c'est ça.
Ça fait combien de temps avec la pandémie que t'as pas fait tourner?
Oh my God, plus à bien avant ben la avant pandémie aussi. Parce que moi j'étais dans le cinéma, puis je suis encore dans le cinéma. Ça fait, je pense, la dernière tournée, ça fait 12 ans que j'ai pas tourné. Ouais, j'ai fait une mini tournée avec Lost Soul, là, j'étais venue te voir. J'avais fait une mini tournée, mais c'était par rapport avec le film. Mais tournée avec Jean, ça fait au moins 12 ans, puis fait que j'ai bien hâte. J'ai très hâte de faire des shows. Là j'ai fait un lancement il y a deux semaines, puis j'aurais fait 3 heures sur la scène, puis j'ai fait 5 chansons, là, mais ça m'a donné comme un avant-goût, puis j'ai vraiment, vraiment hâte de retrouver mon public.
Tu fais quand même beaucoup de choses. Là. Un, t'écris, tu composes la musique, t'es scénariste, tu réalises. Qu'est-ce que t'aimes, les livres pour enfants aussi, que t'aimes plus faire?
Moi, j'aime juste créer. Tu sais, je suis vraiment comme une bibitte de création, puis j'ai besoin de ça pour survivre, dans le fond. Tu sais, je suis une fille qui est très intense. Je te dirais que mon côté personnel, tu sais, ma vie familiale est super importante, mon fils, mon mari, mais j'ai beaucoup besoin de création, tu sais. Fait que, puis j'aime passer des messages, tu sais, dans mes livres pour enfants. Moi, c'est de travailler l'imaginaire avec les enfants, la création, d'amener les enfants dans un monde. Tu sais, t'as le droit de rêver dans la vie, là. Puis, tu sais, moi, je suis rendue où ce que je suis rendue à cause de mes rêves. Puis, j'essaye de promouvoir ça avec les enfants. Je vais voir des écoles aussi. Mais pour répondre à ta question, j'aime autant réaliser un film que réaliser un album, tu sais. J'aime écrire, j'aime composer la musique, j'aime mettre la musique sur des images. Ça dépend de où ce que je suis dans ma tête, tu sais, mais en ce moment, je suis bien gros dans mon album, puis j'arrive d'un salon du livre, tu vois, hier, j'étais à Rimouski. Je partage mon cerveau en plusieurs cases, puis ça va super bien quand même, là, tu sais,
Est-ce que ça, c'est la création, mais la business, ouais, ça t'intéresse?
Oui, ben, tu sais, j'ai pas le choix, hein, parce que j'ai ma maison de disques, puis je travaille avec des éditeurs pour mes livres. J'adore la business, en fait, tu sais. J'aime beaucoup ça, puis j'aime m'entourer de gens vraiment comme très haute, là. Fait que j'étais avec une belle maison d'édition, ceux qui travaillent avec moi, proche de moi pour mon album, Olivier Simard, c'est un gars que j'ai rencontré il y a pas longtemps, qui travaille les réseaux sociaux, mon site internet. Tu sais, j'ai pas beaucoup de monde, parce que j'en veux pas trop, mais le monde que j'ai, c'est de qualité, tu sais, puis c'est important pour moi, puis comme ma maison d'édition, c'est du monde qui croit en moi, qui m'ont pris chez Gallimard édito, puis je trippe au bout à travailler avec eux. Puis la même chose avec mes musiciens, tu sais, j'ai été chercher des musiciens de calibre quand même assez pas pire, là. Tu sais, j'ai Steve Hill sur des chansons, j'ai Mike Garson, le pianiste de David Bowie, sur deux chansons. J'aime ça m'entourer de monde bon, puis passionné surtout, tu sais.
Comment ça va avec les médias? Parce qu'il y a quelques années, tu avais fait une controverse, ouais, évidemment, tu avais lancé un album, puis tu avais envoyé le fameux message anonyme minable, puis ça avait comme par la suite amené une crise.
Ouais.
Puis il y en a qui avaient dit plus jamais on va parler d'elle.
Ah non, mais
c'est encore ça?
Non, vraiment pas.
Ça s'est calmé.
Oui, oui, oui. Puis j'ai parlé beaucoup avec certains journalistes, avec des gens. Tu sais, c'est un stun que j'ai fait. Tu sais, puis c'est comme une bulle au cerveau que j'ai eu à ce moment-là. Puis j'ai essayé une affaire. Tu sais, puis je me suis dit, hey, c'est vraiment comme je vais faire ça, je vais voir ce que ça va donner. Ça n'a pas marché. Garde,
tu voulais attirer l'attention sur l'album, puis oui, ça a été reçu comme des menaces.
Ben oui, mais tu sais, c'était pas ça pantoute. Il y avait aucune menace personnelle là-dedans, tu sais. Puis j'avais fait ça. Puis tu sais, on apprend de nos erreurs dans la vie aussi, tu sais. Puis on fait des moves des fois qu'on se dit, tu sais, je regarde ça avec le temps, puis je me dis, ok, bon, ben c'est peut-être pas ton meilleur flash, celle-là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Puis je pense que tu sais, on apprend de la vie aussi. On devient plus mature aussi, tu sais. Je veux dire, je suis rendue à 44 ans, je suis maman. Il y a des choses que je fais différemment maintenant, tu sais.
Les livres pour enfants.
Oui.
Ils sont vraiment beaux, d'abord.
Merci.
L'histoire, je l'ai feuilleté tantôt et tout ça. Qu'est-ce qui te fait... Je comprends que tu as un fils, là, puis que c'est pas mal lui, là, qui est le moteur, là, de la création, puis que... Une question qui va peut-être avoir l'air bien niaiseuse, là. Est-ce que c'est lui qui suggère des histoires des fois?
Ouais.
Ou c'est toi qui lui suggère?
Non, pas du tout. C'est tout Nathan, ça. Nathan, au Pays des rêves, là, la collection que j'ai sortie, c'est vraiment des idées que Nathan a eues à un moment donné parce que j'y lisais des histoires le soir. Puis à un moment donné, il dit « Maman, on invente-tu nos histoires? » Puis ça a parti comme ça. Fait qu'on a créé le monde des rêves. Puis Nathan choisissait ses mondes qu'il voulait visiter, les personnages, puis tout ça. Puis il avait 6 ans et demi quand on a commencé ça. Fait que moi, j'ai écrit les histoires, évidemment. Et là, ce qui est vraiment cute, c'est que... Puis j'ai François Tisdel qui est l'illustrateur sur cette collection-là. Mais là, ce qui est cute, c'est que Nathan, il va avoir 10 ans bientôt. Puis là, il grandit naturellement. Il lit des livres un petit peu plus épais, puis tout ça, des romans. Fait que j'ai décidé de partir une nouvelle collection qui va être un roman illustré, qui va être pour les 9 à 13 ans. Et c'est Nathan qui va être l'illustrateur. Fait qu'il a signé son premier contrat d'illustrateur parce qu'il dessine vraiment beaucoup. Fait que là, c'est encore lui, c'est encore ses idées. Puis là, on pousse ça encore plus loin avec des petits romans qu'on sort pour les plus vieux.
Là, tu pars en tournée, tu le disais. Ouais. Le prochain endroit où tu seras, c'est...
Par cœur? Non, je sais pas par cœur, mais c'est sur mon site. Mais je sais que je fais Albert Rousseau à Québec, mais ouais, ça commence avec ça, je pense, dans la fin septembre 2022. Puis je suis en tournée jusqu'à avril, probablement, d'après. Puis, écoute, je capote. Je vois les dates rentrer sur mon site. Puis, je suis comme, oh my God, j'ai vraiment beaucoup de dates. Mais j'ai vraiment hâte de me promener au Québec.
Annick, merci d'être venue ce matin.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.